Oui, bonjour, Denis Aspeza et Gérard Piel pour le magazine Naturellement. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le numéro 140 de Naturellement.
Oui, donc ça sera la dernière émission avant la coupure estivale, avant l'été, et donc nous reprendrons évidemment en septembre. Le numéro de Naturellement que nous allons un peu décortiquer à cette émission est aujourd'hui en vente dans les kiosques et par abonnement.
Bien, au-delà des différents articles de Naturellement, on va aussi quand même évoquer, il y a 2 jours, s'est tenu un important colloque organisé par le MNLPACA, que tu présides, Gérard, avec des participants de qualité qui ont bousculé quelques idées reçues concernant les incendies. Peux-tu un peu revenir sur cette réunion?
Oui, ce colloque s'est tenu à Martigues toute la journée donc de samedi. Je voulais confirmer ce que tu as dit par rapport à la qualité des intervenants, puisque nous avions quand même autour de la table le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers donc des Bouches-du-Rhône, un chercheur de l'Institut national de la recherche agricole et environnementale, un responsable de la CGT de l'ONF et 2 propriétaires forestiers donc. Mais aussi de nombreux élus, puisque le colloque a été ouvert par le maire de Martigues. Dans les élus, il y avait aussi le député de la circonscription, Pierre Darville, qui est l'auteur d'une proposition de loi pour que la forêt devienne un bien commun. Donc cette journée nous a permis de mieux appréhender les différentes formes d'incendie, les façons de les combattre, et le manque de personnel, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit aujourd'hui en France, de l'avis de tous les intervenants, c'est 40 000 pompiers professionnels, et j'insiste sur le terme professionnel, qui manquent pour pouvoir répondre à toutes les demandes et évidemment les incendies. La question de l'attaque de l'incendie par l'aérien, c'est-à-dire les canadairs, les hélicoptères, etc., a été disséquée. Et j'appelle les auditeurs d'Agora à aller sur notre chaîne YouTube dans quelques jours, puisque chacun des intervenants a enregistré une partie de son discours, a répondu à des questions sur cette chaîne du MNLE. Et je crois que ça sera très intéressant et beaucoup plus intéressant en tout cas que si j'allais réciter ici les différentes interventions.
Oui, je crois que par rapport à ce que tu as dit et ce colloque, ce n'est pas tout à fait sur le même ton que les annonces faites par le président de la République concernant les moyens qui ont été donnés pour la lutte contre les incendies. Donc c'est bien pour ça qu'il faut prendre un petit moment pour écouter la réalité. Alors maintenant, on va disséquer un peu notre numéro 143 de la revue Naturellement. On va aborder aussi le contenu de l'université d'été du MNLE, un moment important pour notre association, qui va se dérouler cette année du côté de Rodez. Pour la revue, je voudrais souligner l'excellence de l'iconographie. La revue s'ouvre par une double page de photos de Georges Fetterman, qui vient d'ailleurs de publier un livre sur les arbres remarquables de France. Et d'ailleurs, pas uniquement les 2 premières pages, hein, c'est tout au long de la soixantaine de pages qu'on retrouve des illustrations de très belle qualité, hein.
Oui, alors au-delà de la qualité du journal, moi je voudrais juste pour commencer insister sur le rôle des bénévoles qui fabriquent cette revue. Pour ce numéro, donc par exemple, 25 personnes ont participé, donc soit des membres du MNLE, soit des membres du conseil scientifique du MNLE, mais aussi des invités comme Francis Wurtz, un ancien député européen qui a répondu à nos questions sur la guerre en Ukraine. Et chaque numéro, si j'ose dire, est une aventure. Et au final, je crois qu'on peut être fier de ce résultat parce que ça fait maintenant 40 ans que cette revue est offerte aux gens. Ça fait 40 ans, je crois, puisqu'on a fêté les 40 années de la revue, que l'on n'a pas à rougir du contenu, puisqu'on a repris tous les numéros pour faire un livre événement sur les 40 ans de la revue Naturellement. Et on a pas sélectionné une seule une pour ne pas la proposer. Toutes les unes seront dans ce livre, parce que toutes les unes sont encore aujourd'hui d'actualité.
Oui, donc on va commencer pour balayer un petit peu la revue par l'édito, hein, l'édito du président national Christian Pellicani, qui revient sur la situation sociale, écologique et économique du pays qui est fragilisé par la politique libérale du gouvernement. Christian Pellicani rappelle une des propositions adoptées à notre congrès de 2022 sur consommer et partager autrement pour sortir du capitalocène.
Oui, alors on peut expliquer ce que recouvre ce terme de capitalocène. Hein. C'est textuellement, c'est l'ère géologique actuelle qui a débuté avec le développement du capitalisme, qui détériore, on le voit tous les jours maintenant, la biosphère et le climat, comme le démontrent d'ailleurs les rapports du GIEC. C'est cela que ça veut dire. On est passé de l'ère où l'ensemble de la planète se détériorait de façon, j'allais dire, naturelle. On a pensé pendant quelques années que c'était l'homme en général qui détériorait la planète. Aujourd'hui, on voit bien que c'est la recherche du profit par tous les moyens. Et donc, c'est le capitalocène, c'est ainsi qu'on le définit. Je le précise bien parce qu'on voit bien qu'il y a un débat autour de ce thème. On voudrait toujours nous faire croire que c'est l'ensemble des humains qui gaspillent l'eau en se lavant les dents ou qui utilisent trop la voiture pour aller au travail, etc. etc. Non, il y a aujourd'hui ce qui est, y compris dans les rapports du GIEC, je le répète, c'est le capitalocène qui est en cause.
Oui, c'est très important, mais on se rend compte hein, que les gens prennent conscience de plus en plus que c'est vraiment cet intérêt, ces intérêts financiers qui font vraiment mal à la planète. Et de plus en plus de gens se disent, on veut bien travailler sur les gouttes d'eau, mais il faudrait peut-être s'occuper de la mer d'une manière générale, et ceux qui polluent et qui détruisent vraiment, quoi. Donc, chaque trimestre, naturellement, revient sur l'activité des groupes locaux. Tu as dit tout à l'heure, hein, des gens qui participent à l'écriture des articles. Donc là, on a sur ce numéro, on a le MNLE 93 qui a agi pour sauver les terres agricoles du triangle de Gonesse. Et ou aussi contre un nouveau centre commercial du côté de Rony. Et on fait aussi une action pour sauver les arbres du square de la Porte de la Villette. Donc c'est toutes des actions qui sont faites par les comités locaux. Et le comité 93 semble assez énergique en ce moment.
Oui, parce que le 93, c'est la Seine-Saint-Denis. Et ils sont confrontés, y compris au bouleversement de leur département, en cause l'organisation des Jeux Olympiques l'année prochaine. Et on est en train de grignoter tous les espaces verts, et il y en a très peu qui restent dans ce département, pour mettre en place, disons, les infrastructures des Jeux Olympiques. Donc le MNLE 93 se bat sur tous ces terrains que tu as évoqués, mais il y a aussi des batailles essentielles du côté de la Loire, du côté de Lyon. On en parlera tout à l'heure. Et puis, chez nous, nous avons quand même organisé plusieurs réunions. Donc, on disait tout à l'heure à Martigues, mais aussi à Venançon. Il y aura aussi une rencontre à Draguignan la semaine prochaine, donc dans le Var. Voilà, les groupes du MNLE sont actifs. Et je pense que les personnes qui souhaitent un nouvel environnement, un autre environnement, ont tout intérêt à nous rejoindre.
Oui, donc là, dans les chroniques aussi régulières, il y a deux pages hein, qui sont réservées à la culture de la paix aussi. Hein.
Oui, on est membre, le MNLE est membre donc de l'Alliance internationale pour la paix, qui regroupe des centaines d'associations à travers la planète, qui a été d'ailleurs récipiendaire du prix Nobel de la paix il y a maintenant 3 ans. Et dans chaque numéro, cette association dispose de deux pages pour expliquer, et on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'une culture de paix en France et ailleurs.
Il faut vraiment développer cette culture. Il y a un article de fond qui est consacré à la promesse du président de la République, je l'ai évoqué tout à l'heure, Macron, de consacrer 100 milliards d'euros au ferroviaire. Rémi Quinton, qui est membre du MNLE 06, mais qui est aussi un membre du MNLE national, décortique le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, ainsi que les différents scénarios qui sont proposés. Et je crois qu'il n'a pas tout à fait la même lecture que le président, il me semble.
Non, d'autant plus qu'il a écrit cet article il y a maintenant quelques jours. Et on voit bien que dans l'article, il évoquait déjà les difficultés pour le fret. Et donc, on voit bien que c'est en train de se passer aujourd'hui. Donc, le fret, 30% du fret ferroviaire va être supprimé, tout simplement pour permettre à des trains, puisque la SNCF rentre en concurrence avec d'autres compagnies, pour permettre à tous les trains de pouvoir circuler. Donc, l'article de Rémi est très complet et il demande vraiment une lecture attentive. Il sera d'ailleurs intervenant au cours de notre université d'été. On reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie dessus. Et on voit bien, et il aura aussi un entretien sur notre site donc, internet, où il va essayer d'être plus court que cet article. Voilà, le ferroviaire aujourd'hui, je fais une petite aparté, parce que sur la ligne des chemins de fer de Provence qui relie Nice à Digne, cette ligne est en grand danger, on l'a déjà dit ici à ce micro, mais on voit bien que les choses sont en train d'avancer. Cette ligne a été abandonnée par le conseil régional, qui a la gestion à travers sa régie des transports. Le matériel roulant arrive au bout du bout. Il n'y a plus assez de rames pour satisfaire l'ensemble des dessertes. La voie est coupée depuis 2019 à hauteur de Moriès, c'est-à-dire dans les Alpes de Haute-Provence, ce qui prive les usagers de ce département d'utiliser le rail tout au long de l'année, quoi, et depuis maintenant 2019. Et donc, c'est des cartes de substitution qui remplacent le train au petit bonheur la chance, puisque les réclamations sont maintenant incessantes par rapport au manque d'autocars et au fait que même les dessertes qui sont dans les gares pour le train ne sont plus respectées par les autocars. Et puis, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, drôle de gâteau, pendant les trois week-ends du mois de mai, c'est-à-dire 1er mai, 8 mai et Pentecôte, tous les trains ont été supprimés, il n'y avait plus de trains sur la voie. On n'a pas encore compris pourquoi, les excuses n'étaient pas vraiment possibles. Et donc, là que c'était le moment d'amener des touristes dans le haut pays, les trains n'ont pas circulé pendant ces trois week-ends. C'est vraiment de mauvais augure pour l'été qui est devant nous. Et je crois que les habitants des Alpes d'Haute-Provence, comme nous, sont ulcérés par ce comportement. Il est vraiment temps de remettre cette ligne en priorité au niveau de la région. On le dira peut-être aussi tout à l'heure, Renaud Muselier est venu à Antibes, au port d'Antibes, annoncer 100 millions d'euros pour le nautisme de luxe, puisque ça concerne les yachts de plus de 24 mètres. Ça serait bien de mettre la même somme pour le matériel des chemins de fer de Provence et les rénover en urgence.
Oui, et faire en sorte que le service public puisse être appliqué de manière convenable. Oui, c'est un dossier, le rail, où l'on revient pas mal, parce que la région PACA, elle est vraiment sinistrée, au-delà des autres régions d'ailleurs. Hein. Alors, le dossier du journal, il est consacré au Frioul. C'est un archipel qui est situé au large de Marseille. Et il inaugure une série d'îles habitées qui va se poursuivre dans les numéros suivants. Hein. On va reparler du Frioul et des différentes îles. Alors, le Frioul, c'est à 5 km de Marseille. Hein. Les îles qui le composent sont les îles de Pomègue, Ratonneau, If et Tiboulen, si je prononce assez bien. Alors, un seul village qui est sur l'île de Ratonneau est habité par 160 personnes qui forment donc le plus petit quartier de Marseille, puisque c'est un quartier de Marseille.
Voilà, un quartier de Marseille qui est cher à notre président Christian Pellicani, puisque en tant qu'élu, c'est lui qui gère ce quartier, et d'autres d'ailleurs, hein. Mais ce dossier nous fait découvrir comment cet archipel qui attire chaque année, donc il y a 160 personnes, tu l'as dit, et chaque année c'est 600 000 visiteurs qui viennent donc sur le sur le Frioul, sur les îles du Frioul, hein, et donc chercher à concilier cette fréquentation et la biodiversité terrestre et maritime de l'archipel n'est pas une mince affaire, et c'est ce que comportent aussi les articles qui sont consacrés à ce dossier. On voit bien comment ce genre de question est très difficile à gérer. On le verra dans les numéros suivants, comme tu le dis, avec d'autres îles habitées. Je pense qu'il y aura un numéro, par exemple, sur les îles de l'Hérens. Dans le même ordre d'idées, il y a un article qui rend compte des assises du RERB. Donc là, on revient en région parisienne. Ces assises se sont déroulées à l'Assemblée nationale, à l'instigation de notre ami la maire de Mitry-Mory, Blandio Farid. Ces assises dénoncent la casse d'un service public, alors là, ce n'est pas la SNCF, c'est la RATP, pour les habitants de l'Île-de-France. Et là aussi, les transports collectifs sont négligés. La ligne B du RER, c'est plus d'un million de passagers quotidiens, et une ligne qu'ils nomment maintenant la galère. On voit là aussi comment le service public est mis de côté, quoi.
Une ligne qui se nomme la galère, effectivement. Donc, pour continuer un petit peu à passer en revue ce dernier numéro du magazine Naturellement, tu as toi-même participé à ce numéro avec différents articles, avec les pages qui sont consacrées à l'eau. Hein, c'est un sujet que l'on a pas mal développé ces temps-ci et que l'on continuera à développer et à aborder. Tu as fait aussi un article sur la sécheresse, hein, après l'eau, la sécheresse. Les engagements votés au congrès du MNLE, hein, c'est important pour nous, et un compte-rendu de la réunion que tu as animée avec le président Christian Pellicani à Venançon. Et enfin, le résultat, on l'a cité dans notre dernière émission d'Agora, le résultat de la carafe d'or et du broc de plomb 2023.
Voilà, j'ai rempli mes deux pages, on va dire, comme ça. Mais puisqu'on est sur la question de l'eau, juste là aussi, je fais une digression. J'ai dit tout à l'heure que Renaud Muselier est venu donc au port d'Antibes pour inaugurer ce qu'ils ont appelé les premières rencontres du yachting, réservées, donc, je le répète, aux bateaux qui font plus de 24 mètres. On voit de quel bateau il s'agit, quoi. C'est vraiment le quai des milliardaires. Et le président de la région a amené 100 millions d'euros sur la table. Et malheureusement, ces 100 millions d'euros ne serviront pas à réduire l'utilisation de l'eau potable par le port. On sait maintenant que le port d'Antibes fait partie des 5 plus gros consommateurs d'eau potable, que quand on nettoie les bateaux du quai des milliardaires, on le fait avec des lances d'eau qui prennent de l'eau potable tout simplement dans le réseau. Alors, on m'a fait remarquer que cette eau était payée, encore heureux, quoi. Encore heureux qu'elle est payée. Mais c'est un gaspillage épouvantable, quoi. C'est des milliers de mètres cubes d'eau qui sont utilisés chaque année pour nettoyer les carénages des bateaux. Ça me semble complètement incongru avec ce qui se passe actuellement au niveau du manque d'eau, quoi. Donc, on pensait que ça allait pouvoir... une partie de cet argent allait pouvoir être mise sur cette question-là, pas du tout. C'est simplement pour permettre aux bateaux d'accéder aux quais, d'avoir un accueil sur les quais, etc. La deuxième question qu'on aurait pu poser, si on avait été invité, mais on n'a pas été invité, mais on l'a quand même posée à travers les réseaux sociaux, c'est que ce colloque qui s'est déroulé toute la journée n'a pas abordé une seule fois la question des travailleurs des bateaux, quoi. Je veux dire, de ces personnes, en particulier des personnes des Philippines, des personnes qui sont sur ces bateaux, qui sont inabordables, si j'ose dire, par le Code du Travail et par le règlement du Code du Travail, puisque les inspecteurs du Code du Travail n'ont pas le droit de monter sur ces bateaux. Il faut savoir que ces bateaux ont une extériorité nationale qui fait que c'est pas possible pour les services publics français d'aborder ces bateaux, d'aller sur ces bateaux contrôler le travail de ces personnes. Et nous, on souhaiterait vraiment que cela se fasse parce que chaque année, il y a des scandales, mais on les voit après coup. Ça serait quand même bien que les personnes qui travaillent sur ces bateaux, leurs conditions de travail soient contrôlées et soient correspondent aux règles et à la loi française et pas aux règles d'autres pays, quoi. Enfin, toujours sur la question de l'eau, ce qui fait débat aujourd'hui dans le département, c'est cette île flottante qui ferait boîte de nuit, piscines, etc., etc., qui seraient disposées au large de Mandelieu, qui s'appelle Canua Island, qui a coûté 16 millions d'euros quand même. Et là aussi, Renaud Muselier, il aurait pu nous expliquer pourquoi il s'est porté caution bancaire de cette île, alors qu'il dit sur tous les tons qu'il n'est pas d'accord avec, avec cette, cette manière de faire. Donc nous, nous considérons que ce n'est pas possible aujourd'hui de donner l'autorisation à cet équipement. Nous attendons avec impatience de voir ce que décideront les services de l'État. Le préfet maritime ne dit rien, le préfet des Alpes-Maritimes ne dit rien. Le secrétaire d'État à la mer a pris position contre l'exploitation de ce bâtiment. Il y a une pétition sur le net aujourd'hui qui a recueilli plus de 20 000 signatures et on espère vraiment que ça continuera de signer sur cette pétition.
Oui, merci Gérard. On va continuer, mais tout d'abord on va faire une petite pause musicale et on reprend la suite du passage en revue de notre dernier numéro de Naturellement. À tout de suite.
Cette fois, non, dans l'eau de rose. Debout et nu sur le parapet du pont, nous crions que cette fin-là aussi est heureuse. Nos tout petits jeux sont légers, mais légers et graves. Comme l'ange ou le zeppelin quand il vient. Jure-moi qu'importe le danger, même si l'on crève, tes sanglots seront toujours reptiliens. Frappe, frappe vite avec ton couteau court, en mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant que tout à tout est immobile. Et que tu es belle, que tu es belle. Frappe, frappe vite. Avec ton couteau court, en mon cœur fidèle, puissions-nous partir maintenant que tout à tout est immobile et que tu es belle, que tu es belle. dis-tu? Que dis-tu de prendre la large, de prendre la large, de prendre la large? Que dis-tu de prendre la large, de prendre la large? Que dis-tu? Soyons les premiers de prendre la large. Si tout doit sauter, de prendre la large. Soyons les premiers de prendre la large. Si tout doit sauter, que dis-tu? Soyons les premiers de prendre la large. Si tout doit sauter, de prendre la large.
Bien, après cette petite pause musicale, notre émission naturellement va reprendre. Hein. Je le rappelle, nous étions en train de passer en revue le dernier numéro de Naturellement. Donc, on va parler du professeur Charles-François Boudouresque, hein, qui est un membre du MNLE. Il détaille tout l'intérêt à garder sur nos plages les banquettes de feuilles mortes de Posidonie. C'est un sujet qu'on aborde souvent, hein, et notamment dans notre région. C'est un véritable enjeu écologique, économique et culturel. Il faut continuer d'expliquer pourquoi les Posidonies sont importantes sur nos plages et pourquoi il faut les préserver, notamment des ancres des yachts dont tu as parlé tout à l'heure, qui pullulent dans nos eaux. Charles-François le fait en rendant accessible la parole scientifique. Hein. C'est un scientifique et il sait se mettre au niveau pour que tout le monde puisse comprendre. Dans les pages qui sont consacrées à l'énergie, je rappelle que l'avant-dernier numéro était un numéro qui était vraiment consacré sur le dossier sur les énergies. Il y a encore une petite page qui aborde ce sujet-là. C'est un complément de ce qui s'est fait au précédent numéro, et qui parle de la méthanisation, qui, c'est assez bien expliqué, je ne vais pas le reprendre ici, qui n'est ni verte ni vertueuse, et c'est démontré avec l'exemple du projet de la Chapelle du Bois dans le département de la Sarthe. Alors sur le dossier, très rapidement, hein, sur le complément du dossier énergie, il parle de la géothermie, donc il parle de la géothermie de surface, la géothermie en profondeur, avec toutes les possibilités que cela amène, mais aussi l'article intervient sur les besoins du service public, ou en disant que c'est le service public, c'est le meilleur moyen pour assurer l'équilibre entre toutes ces sources d'énergie et pour éviter les niches qui permettent les niches capitalistes. Sur l'exemple qu'il donne sur la méthanisation, il essaye de mettre en garde le monde de l'agriculture, hein, qui peuvent se laisser un petit peu berner, comme ils se laissent berner par les éoliennes, par les panneaux photovoltaïques. C'est souvent des sociétés, des filiales de sociétés étrangères qui proposent des projets. Là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui in fine, ne se préoccupent pas d'essayer d'utiliser les substrats venant de l'élevage, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais utilisent des plantes qui peuvent servir à nourrir les gens. Et un exemple est donné aussi de bassines d'eau pour la méthanisation. Donc tout ça, il y a pas mal d'éléments qui font qu'on voit la méthanisation d'un autre œil. Même si le fait d'utiliser la méthanisation au départ, ça peut être quelque chose d'intéressant, Mais quand on rentre dans le détail, il faut faire attention, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure du capital au sein, quand les intérêts financiers rentrent dans un élément intéressant, ils dénaturent cet élément-là. Donc voilà, le complément du dossier énergie est assez intéressant.
Oui, alors il y a eu aussi il y a un article, donc les militants du MNLE, du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, ont participé au rassemblement de l'URE. L'URE, c'est dans le département de la Haute-Saône. Il y avait là des représentants de 260 organisations syndicales, politiques et associatives qui ont signé un appel, l'appel de l'URE, qui est pour le développement et pour la défense des services publics. On voit bien qu'en France, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Cet appel est à découvrir aussi dans Naturellement.
Donc, un article aussi, tout à l'heure, on parlait de des photos qui illustraient ce numéro. Hein. Donc là aussi, sur un article où il y a de magnifiques illustrations, ça concerne le salon des orchidées de Vergès dans le Gard, où le MNLE ont tenu un stand qui a été particulièrement apprécié.
Le groupe du MNLE dans le Gard est spécialisé, si j'ose dire, dans la fleur et dans la production de fleurs rares et de végétaux rares, puisque c'est des amis qui se sont qui ont adhéré au MNLE, une association qui a adhéré au MNLE, où d'ailleurs je le dis aussi ça entre parenthèses, mais je le dis quand même, toute association peut adhérer au MNLE en tant que telle, elle gardera ses propres statuts à partir du moment où elle est d'accord avec ce que l'on défend, et cette association l'a fait, et leur participation au salon a permis de quand même de récupérer plus de 3000 pétitions pour qui est en cours aujourd'hui pour le MNLE avec l'association qui défend le rail au niveau national. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a interviewé Francis Wurs, donc qui est revenu sur le conflit russo-ukrainien. On a laissé une page donc à l'association ici qui s'appelle ici le réseau Salariat. Association qui a été fondée par le sociologue Bernard Friot. C'est une association qui porte une critique radicale de l'économie et donc qui est un collectif, y compris d'entreprises, qui est engagé pour la maîtrise de l'économie par les producteurs et pas par les financeurs. Et enfin, il y a un article sur les polluants éternels donc, dans la région lyonnaise. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont absorbé de la pollution, de la chimie de cette vallée du Rhône, et qui ne pourront jamais s'en défaire. C'est devenu pour eux quelque chose de définitif, et les études qui ont eu lieu le démontrent totalement. Quoi.
Pour continuer, effectivement, là, tu nous as parlé de la vallée du Rhône avec ses pollutions. On va aller sur quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus sympa. C'est d'ailleurs un article que tu as écrit. Dans les pages nature, tu nous parles du gaillet jaune, pas du gilet jaune. Hein, et tu nous expliques comment fabriquer ses propres bouillons de légumes.
Oui, alors ça, c'est pas moi, c'est Nicole, hein, les bouillons de légumes. Le gaillet jaune, c'est une plante qui est sauvage et qui, pendant des années, des décennies, a servi aux bergers à fabriquer le fromage, tout simplement, parce que c'est en incorporant cette plante au lait, on arrive à le faire cailler. Il n'y a pas besoin de mettre les fraises de veau ou des compléments chimiques. La plante permet le caillage du lait de façon tout à fait naturelle. Et c'est encore utilisé aujourd'hui par quelques producteurs du côté du Haut-Verdon et du côté de Saint-Véran, donc c'est une plante qu'on peut utiliser aussi autrement pour fabriquer toutes sortes de la limonade, du sirop, enfin bref, comme beaucoup de plantes sauvages, c'est une plante très importante. C'est cette plante-là que j'ai mis en avant dans la petite rubrique qui m'a été gentiment offerte par Naturellement sur les plantes sauvages. Donc c'est je pense que c'est... Ah non, il y a aussi, oui, notre librairie, donc la librairie d'Émile Communication est aussi dans le Naturellement. Et j'en profite pour dire que ça sera... on a rajouté un livre donc, qui vient de sortir, qui est un livre qui s'adresse aux enfants, qui s'appelle L'enfant couleur, qui est une bande dessinée, et qui permet là aussi, par le biais de la bande dessinée, de porter ce que l'on porte, puisque L'enfant couleur, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ces couleurs-là pour la paix à travers la planète. Donc, il fait partie maintenant des éditions Émile Communication, et ça disons, étoffe notre offre au niveau des enfants. Quoi.
Oui, je le rappelle, quand on tient des stands, pour ce qui nous concerne, mais ailleurs aussi, dans le MNL 06, nous présentons systématiquement tous les livres qui sont édités par Émile Communication, et notamment l'eau dans tous ses états.
Accord à côté sur.
Peux-tu rapidement nous présenter quand même, puisque je l'ai dit au début de l'émission, qu'on allait parler de la 28e université d'été du MNLE qui va bientôt se tenir.
Oui, elle va se dérouler du côté de Rodez, donc... du côté de Rodez, dans un village qui s'appelle Pont-les-Bains, dans une belle propriété qui s'appelle Loustal. Et cette 28e université a pour thème donc le temps des alternatives, voilà, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus attendre que les choses soient bouleversées totalement. Il faut construire les alternatives au fur et à mesure et à chaque fois que l'on peut. Et donc, elle se déroulera du 27 août au 2 septembre, voilà, pendant la semaine à cheval sur le mois d'août et le mois de septembre. Disons que le dimanche 27 août, il y aura l'accueil des participants, des intervenants, une présentation de la région par un élu de la région Occitanie, d'ailleurs, et Christian Pellicani, qui est le secrétaire national du MNLE. Le 28 août nous permettra, en plénière, devant le succès des universités d'été du MNLE, on a décidé de donner plus de contenu, donc de faire des réunions plénières, mais aussi des réunions par groupe, qui permet de multiplier les interventions. Et donc la première séance plénière présentera la totalité de ces interventions. Elle sera suivie par le GIEC, donc, et le temps des alternatives, qui est animé par Jean-Claude Boal, qui est un ami du MNLE au niveau parisien. La soirée, ça sera des contes. Et donc, le mardi, il y aura Charles-François Boudouresque qui reviendra sur la préservation de la biodiversité. Christian Chassot qui parlera du climat et de l'énergie. Comment satisfaire les besoins, quelle production pour quelle organisation sociale. Le mercredi, on sera donc confronté à la désindustrialisation de notre pays et comment concevoir une réindustrialisation qui prend en compte l'environnement. Le soir, il y aura la présentation d'un film, donc Révolution École, avec la réalisatrice Johanna Kudzinska. Le jeudi 30, qui sera une journée consacrée à la visite du département, qui le mérite, hein, on présentera donc le film De l'eau jaillit le feu, qui sort actuellement, qui parle de la lutte contre les bassines à Sainte-Soline et jusqu'au clash qui a eu lieu donc, le jour de la manifestation. Le vendredi 1er septembre, il y aura plusieurs ateliers, dont un qui sera mis en place par Rémi Quinton sur le transport, avec le vice-président de la région Occitanie au transport, Jean-Luc Gibelin. Moi-même, je gérerai la gestion de l'eau dans le cadre du Forum Alternatif Mondial de l'eau, avec le collectif Eau du réseau Humanité et Nature. Et puis, il y aura, au niveau du temps des alternatives, on avancera sur la question de la forme juridique et d'évolution du droit. On le voit très bien avec les coopératives, avec nos amis de Scopit, ancien Fralib, ou des fabricants, des amis qui fabriquent la glace dans l'Aude, il faut vraiment se donner des formes juridiques fortes pour arriver à résister dans le contexte économique actuel quand on souhaite se passer de patron. Quoi. Voilà, très rapidement, il y a aussi toute une série de visites, donc, puisque on a choisi de se consacrer aussi à cette région autour de Rodez. Les amis du 93 viendront avec des enseignants nous parler de la qualité de vie urbaine. Et dans le 93, on voit ce que ça veut dire. Comment habiter autrement, donc, avec des amis de Loire-Atlantique et du Havre, sur les habitats collectifs partagés, etc. On aura aussi des échanges sur les logiciels libres, comment sortir des GAFAM. des échanges sur les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible intensité, c'est-à-dire là où on veut réduire aujourd'hui la place de la voiture, mais des voitures anciennes qui sont utilisées essentiellement par les gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Cette question est aussi très importante. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis oui, on terminera aussi par comment construire les réseaux de convergence, comment lutter, quel projet pour l'éducation avec un syndicat d'enseignants. Voilà, j'ai à peu près dit tous les débats et toutes les rencontres qu'il y aura. J'ai pas cité tous les intervenants parce que sinon on en aurait encore pour un bon bout de temps. Mais on voit que cette université va se positionne vraiment dans un moment important pour notre pays, mais aussi pour la planète, et qu'on essaye de se donner les moyens de réfléchir autrement à l'avenir, mais en partant de l'avenir, c'est-à-dire demain, après-demain, et pas de réfléchir à 2030, 2050, comme l'a annoncé le ministre de l'écologie, puisqu'il nous a annoncé qu'en 2030, on allait vivre avec 4 degrés de plus en France, ce qui est une aberration de le dire de cette façon-là, quoi. Voilà, très, très rapidement, ce que je voulais dire. Je crois qu'on peut saluer les auditeurs et les auditrices d'Agora Côte d'Azur pour cette saison. Saluer aussi la radio de son accueil sympathique. Et puis donner rendez-vous au mois de septembre pour d'autres rencontres radiophoniques.
Bien, on vous souhaite de passer de très bonnes vacances et puis on vous dit à la rentrée. Merci.